L'ancien chef de la marine de Tsahal, Eliezer Maron, assure qu'Israël pourrait être confronté à la même pénurie de missiles que les États-Unis, ce qui donnerait un avantage à l'Iran.
Alors qu'un accord temporaire sur le détroit d'Ormuz est en vue, Donald Trump estime quant à lui que la guerre prendra bientôt fin.
Le Hamas appelle les habitants de la bande de Gaza à assassiner les responsables des milices armées soutenues par Israël.
Et enfin, la Belgique va déployer début septembre une trentaine de militaires au Groenland dans le cadre de la nouvelle mission de l'OTAN. Israël pourrait être confronté à la même pénurie de missiles que les États-Unis, ce qui donnerait un avantage à l'Iran. C'est ce qu'assure l'ancien chef de la marine Eliezer Maron sur la radio israélienne 103 FM.
En ce qui concerne les missiles Arrow, nous en avons moins que nous le souhaiterions et la capacité de production est très limitée. Par conséquent, une très grande partie des interceptions a été effectuée par des systèmes TAD et les missiles lancés depuis des navires de la marine américaine. Aujourd'hui, nous ne combattons que l'Iran, mais que se passera-t-il si nous devons affronter la Chine au cas où celle-ci déciderait d'envahir Taïwan? Eliezer Maron a exprimé sa crainte qu'Israël ne soit finalement contraint de frapper l'Iran de son propre chef, car Washington ne souhaite pas agir. La stratégie actuelle de Donald Trump consiste à aborder les élections avec des prix de carburant aussi bas que possible. Selon lui, la question nucléaire, les missiles et les mandataires de l'Iran sont tous secondaires aux yeux du président américain, tandis que les Iraniens se concentrent sur la conclusion d'un accord sur le détroit d'Ormuz. Enfin, il a déclaré une frappe américaine massive contre les infrastructures civiles en Iran pourrait faire tomber le régime. Mais ils ne veulent pas que ça arrive. C'est pourquoi ils poussent les choses jusqu'au bout. Le Qatar n'a qu'un seul intérêt, que l'Iran reste stable et fort, a ajouté l'ex-commandant de la marine israélienne.
Et il a également exposé plusieurs mesures qu'Israël devrait, selon lui, prendre dans les circonstances actuelles.
Nous devons poursuivre les négociations avec le Liban. Nous ne devons pas les laisser échouer. Elles sont une épine dans le pied des Iraniens qui subissent une pression énorme à cause d'elles. La deuxième chose est qu'Israël doit être prêt à frapper à tout moment. S'il n'y a pas d'attaque américaine, l'Iran franchira les lignes rouges. Il avance à grands pas dans le domaine du nucléaire et celui des missiles balistiques. Israël n'aura d'autre choix que de frapper les installations de production en Iran, même s'il doit le faire seul. Ce sont les mots d'Eliezer Maron, alors que Donald Trump a de nouveau nié que les stocks de missiles du Pentagone s'épuisaient, qu'un accord temporaire sur le détroit d'Ormuz est en vue. Donald Trump estime que la guerre prend...
Oui, selon la chaîne américaine MS Now, Oman et l'Iran seraient parvenus à un accord provisoire visant à rouvrir le détroit d'Ormuz. Deux diplomates du Moyen-Orient proches des négociations ont indiqué qu'un cadre d'entente avait été trouvé sans toutefois en dévoiler les modalités. D'après une source iranienne impliquée dans les discussions, l'accord prévoit la création de nouveaux couloirs de navigation permettant aux navires d'entrer dans le golfe Persique par une voie contrôlée par l'Iran et d'en sortir par un passage placé sous contrôle d'Oman. Contrairement à certaines informations diffusées par les médias iraniens, aucun droit de passage ne serait exigé des navires commerciaux. Présenté comme un accord temporaire, ce dispositif doit préparer une nouvelle déclaration de cessez-le-feu entre Washington et Téhéran et permettre la reprise des négociations sur le programme nucléaire iranien interrompu après les récents affrontements dans la région.
11 personnes ont été blessées lors de frappes des Houthis contre l'Arabie Saoudite, une attaque menée dans la région de Najran, près de la frontière avec le Yémen.
C'est ce qu'a rapporté ce matin l'agence de presse saoudienne qui cite la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite qui combat le groupe yéménite le groupe terroriste yéménite. Un yéménite, deux égyptiens et un pakistanais ont été blessés ainsi que 7 saoudiens selon la coalition. Parmi les saoudiens blessés, on comptait une femme et un enfant de 4 ans. C'est à ce jour l'attaque la plus meurtrière menée depuis 2022 par les Houthis du Yémen.
Et justement, l'Arabie Saoudite s'attendait hier soir à des attaques coordonnées imminentes venant du nord et du sud, menées par des milices irakiennes et les Houthis du Yémen.
Le tout sous la supervision du corps des gardiens de la révolution islamique iranien. C'est ce qu'a déclaré hier soir un haut responsable saoudien. Ce responsable, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a indiqué que des rapports des services de renseignement saoudiens, américains et d'autres pays de la région laissaient entendre que des sites civils et économiques pourraient être pris pour cible, notamment des infrastructures énergétiques, des ports et des aéroports. aéroports. L'Arabie Saoudite a également observé des mouvements de drones et de missiles, ce qui laisse présager des opérations coordonnées venant des deux directions, selon ce responsable. Ce responsable saoudien a enfin déclaré que les menaces signalées étaient particulièrement alarmantes, alors que Riyad continuait à œuvrer en faveur d'une désescalade et d'un règlement négocié. Il a précisé que les attaques prévues pourraient avoir pour but de perturber ces efforts diplomatiques qui vont dans le bon sens, selon lui.
Et cette nouvelle flambée de violence marque une dégradation sensible de la situation sécuritaire entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. L'Arabie Saoudite qui, comme on le disait, redoute de nouvelles attaques.
Après plusieurs années de relative accalmie entre Riyad et les Houthis, les affrontements se multiplient de nouveau sur fond de tensions régionales liées à l'Iran. Depuis la mi-juillet, les rebelles yéménites ont repris leurs tirs contre le territoire saoudien, attaqué des installations pétrolières et revendiqué des opérations contre des pétroliers en mer Rouge dans le cadre d'un blocus maritime qu'ils disent imposé au royaume. Selon des renseignements recueillis par l'Arabie Saoudite, les États-Unis et plusieurs pays de la région, des préparatifs visant potentiellement des sites civils et économiques, notamment des infrastructures énergétiques, des ports et des aéroports, seraient en préparation. Riyad aurait également détecté des mouvements de drones et de missiles, renforçant l'hypothèse d'opérations coordonnées depuis l'Irak et le Yémen. Ces informations, on les a donc apprises récemment. Le responsable a par ailleurs insisté sur le niveau très élevé de la coopération entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, notamment sur le plan opérationnel avec le commandement central américain, le CENTCOM. Il a assuré que Riyad était prête à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'agression. Et par ailleurs, la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Pakistan signeront aujourd'hui en Arabie Saoudite un accord de défense conjoint. C'est ce qu'ont indiqué à Reuters deux sources régionales bien informées sur le sujet.
Le prince héritier saoudien Mohamed bin Salman, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif seront réunis aujourd'hui dans la ville saoudienne de Jeddah pour un sommet entre les trois pays musulmans sunnites. La question était en discussion depuis longtemps, mais les récents développements dans la région ont accéléré le rythme, a accédé à l'AFP, une source proche de l'armée qui souhaite garder l'anonymat. Ils ont également insisté sur la nécessité de garantir la sécurité de la navigation dans les détroits d'Ormuz et de Bab el-Mandeb afin de préserver la stabilité des chaînes d'approvisionnement et des marchés de l'énergie. Les ministres ont réaffirmé leur soutien aux solutions diplomatiques ainsi qu'aux efforts de médiation menés par le Pakistan et le Qatar entre l'Iran et les États-Unis, tout en soulignant l'importance du respect de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale dans le but de renforcer la sécurité et la stabilité du Moyen-Orient. Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei n'a rencontré aucun membre du gouvernement iranien depuis les frappes américano-israéliennes qui ont coûté la vie à son prédécesseur.
C'est ce que rapporte le média Iran Wire, proche de l'opposition, qui cite deux sources anonymes proches de l'administration du président Massoud Pezeshkian. Ces sources affirment que des rumeurs selon lesquelles il se trouverait dans un état extrêmement critique et pourrait décéder à tout moment circulent largement au sein des plus hautes sphères du régime. Je cite, l'une des sources aurait déclaré: nous ne serions pas surpris d'apprendre bientôt la nouvelle de son martyr. Mojtaba Khamenei n'a fait aucune apparition publique depuis qu'il est devenu guide suprême et aucun enregistrement de ses discours n'a été diffusé. Seules des déclarations écrites qui lui sont attribuées par les médias d'État ont été publiées. Le Hamas appelle les habitants de la bande de Gaza à assassiner les responsables des milices armées soutenues par Israël, selon un communiqué de sa force de sécurité intérieure rapporté par le Jérusalem Post.
L'assassinat des principaux collaborateurs de ces groupes sera votre salut et devant votre peuple, affirme ce communiqué du Hamas. Le Hamas encourage parallèlement les habitants de Gaza à signaler toute activité suspecte ou la présence de personnes recherchées pour collaboration présumée avec Israël. La force Rada du Hamas affirme avoir récemment arrêté avec l'aide des habitants un Palestinien entretenant des liens avec des responsables de ces milices. Ses armes et son argent auraient été saisis. Ces appels interviennent après la présentation d'une feuille de route visant à faire avancer la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza. Le Hamas, qui affirme toujours avoir accepté de remettre ses armes lourdes au comité palestinien de technocrates, cherche d'autres façons de garder le pouvoir. Le projet qui prévoyait également le démantèlement des milices opposées au Hamas l'arrange. Il exclurait leurs membres des futures forces de sécurité et de police de Gaza. La mise en œuvre du plan actuel aurait déjà commencé. Ça durcit donc ses éliminations ciblées et les forces forces multinationales se préparent à entrer dans la bande palestinienne. Israël subit toutefois des pressions pour se retirer partiellement avant le désarmement complet du Hamas.
Et les responsables de la sécurité israélienne ont récemment tenu à plusieurs discussions sur l'avenir des membres des milices palestiniennes qui opèrent dans la bande de Gaza avec le soutien d'Israël.
C'est ce qu'a rapporté hier soir la chaîne publique israélienne Kan. L'objectif est d'assurer leur sécurité à l'approche de la nouvelle phase du plan pour Gaza. Les autorités israéliennes estiment que les membres de ces milices ne pourront pas à terme retourner vivre dans les secteurs de Gaza où le Hamas conserverait une influence en raison de risques de représailles. Et vu ce que on vient de vous dire sur le fait que le Hamas voulait les assassiner, la solution avancée par les responsables sécuritaires israéliens sous l'impulsion du Shin Bet consisterait à les installer dans une future nouvelle Rafah, une ville qui, selon le projet, doit être construite avec l'aide des Émirats Arabes Unis et placée sous la protection de la force multinationale appelée à être déployée dans la bande palestinienne. Cette nouvelle zone résidentielle serait conçue comme un espace débarrassé de toute présence du Hamas. Les Palestiniens souhaitant installés devraient au préalable passer un contrôle de sécurité israélien. Israël a déjà transmis aux représentants du Conseil de la paix cette proposition visant à y accueillir les membres des milices palestiniennes. Les premiers habitants de la nouvelle Rafah doivent être ceux qui s'opposent au Hamas. C'est dans l'intérêt d'Israël, a déclaré un responsable israélien cité par la chaîne Kan.
Les pourparlers de paix entre Israël et le Liban à Rome ont achevé leur troisième journée.
Les discussions ayant été fructueuses sur le plan technique et spécialisé, a déclaré hier un responsable du département d'État américain. Les deux parties sont beaucoup plus proches sur ce qu'il faut faire pour faire avancer et éteindre le processus de la zone pilote, c'est ce qu'a précisé cette source.
Une mère israélienne de 62 ans et sa fille de 23 ans ont été violemment agressées sur l'île thaïlandaise de Koh Phangan. Leur état, d'abord considéré comme grave, est désormais stabilisé.
Selon leur témoignage, elles se rendaient vers une cascade lorsqu'un motard leur a demandé leur nationalité. En apprenant qu'elles venaient d'Israël, l'homme aurait critiqué la guerre à Gaza. Les deux touristes ayant refusé de parler politique, il se serait alors jeté sur elles. La mère affirme avoir reçu plusieurs coups à la tête et avoir été mordue à l'oreille. La fille a réussi à rejoindre la route pour appeler de l'aide. Transférée à l'hôpital de Koh Samui, les deux femmes ont dû être opérées. Le suspect, présenté comme détenteur d'un passeport français, aurait ensuite été arrêté après une autre altercation avec des policiers. La mère assure que le traumatisme restera profond et qu'elle hésitera désormais à révéler sa nationalité lorsqu'elle voyage à l'étranger. En Thaïlande, toujours, au moins 7 personnes ont été tuées par un élève qui a ouvert le feu dans une école aujourd'hui avant de se suicider.
Le commandant de la police provinciale a confirmé le bilan à Reuters. Parmi les blessés figurent un enseignant et 3 élèves. C'est donc au moins 7 personnes tuées et 4 personnes blessées. L'incident s'est produit dans le district de Bang Krui, dans la province de Nonthaburi, au nord de Bangkok. La police a identifié l'auteur des faits comme étant un élève. Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar a vivement répondu aux critiques hier qui ont été formulées par son homologue turc Hakan Fidan concernant les opérations militaires israéliennes en Syrie.
Hakan Fidan avait présenté les actions d'Israël comme l'une des principales menaces pesant sur la stabilité syrienne. Selon lui, les interventions israéliennes portent atteinte à la souveraineté de la Syrie, je cite, et risquent d'alimenter les tensions régionales. Gideon Saar a rejeté ces accusations, affirmant qu'Israël prenait uniquement les mesures minimales nécessaires pour protéger ses citoyens contre des attaques provenant du territoire syrien. Ce sont les mêmes dirigeants turcs qui violent depuis des décennies la souveraineté de la Syrie tout en nous donnant cyniquement des leçons aux autres sur le droit international. Selon Gideon Saar, la Turquie contrôle environ 5% du territoire syrien et chercherait à y établir des bases militaires susceptibles de menacer la sécurité d'Israël. Il affirme qu'en comparaison, la zone tampon tenue par Israël ne représenterait que 0,1% du territoire syrien.
Et puis toujours à propos de Gideon Saar, il a aussi rencontré le nouveau président colombien Abelardo de la Espriella à la veille de son investiture officielle.
Il s'agit de la première rencontre diplomatique du futur chef de l'État colombien depuis son élection. Gideon Saar, qu'il a rencontré pendant 3 heures hier, a parlé avec lui de mesures concrètes pour renforcer les relations politiques, sécuritaires et économiques entre Israël et la Colombie. Le chef de la diplomatie israélienne a remercié le nouveau président pour sa décision de transférer l'ambassade de Colombie à Jérusalem. Gideon Saar représentera Israël aujourd'hui lors de la cérémonie d'investiture du nouveau président colombien qui doit avoir lieu à Cali sous forte protection policière en raison des menaces des cartels de la drogue. Le président russe Vladimir Poutine pourrait tenter dans les années à venir de tester la détermination militaire de l'OTAN en lançant une attaque de faible ampleur contre un pays membre.
C'est ce qu'indiquent de nouveaux rapports des services de renseignement américains selon le Wall Street Journal. Les scénarios possibles vont d'une cyberattaque à une incursion terrestre de faible ampleur. On ignore dans quelle mesure les services américains jugent une telle attaque possible. Cet avertissement intervient alors que les États-Unis sont confrontés à des pénuries de certains types de munitions essentielles qui seraient nécessaires en cas de conflit avec la Russie ou la Chine. Les stocks américains ont fortement diminué en raison des livraisons d'armes à l'Ukraine depuis l'invasion russe et du conflit opposant les États-Unis à l'Iran. C'est pour ça qu'on vous demande en question du jour pour lundi, craignez-vous une attaque russe contre l'OTAN ?
La Belgique déploiera début septembre une trentaine de militaires au Groenland dans le cadre de la nouvelle mission de l'OTAN baptisée Arctic Sentry.
L'information a été confirmée ce matin par le ministre de la Défense Theo Franken à VTM News. Parmi les militaires envoyés figurent des soldats de la 1ère brigade de Léopoldsbourg ainsi que des membres des forces spéciales, l'unité d'élite de la défense belge. Cette mission vise à surveiller et protéger la vaste région arctique devenue un enjeu stratégique majeur pour l'Alliance Atlantique. La mission Arctic Sentry a été mise en place après les menaces du président américain Donald Trump d'annexer le Groenland. Donald Trump avait déjà évoqué l'idée d'acheter l'île, estimant qu'elle était essentielle à la défense des États-Unis. À travers ce déploiement, l'OTAN entend également envoyer un message clair à Donald Trump. L'Alliance affirme être capable d'assurer elle-même la protection de l'Arctique et de l'île stratégique.
Les commissariats belges pourront désormais utiliser TikTok pour communiquer avec les citoyens, notamment avec les jeunes.
Oui, effectivement, Lise, les commissariats de proximité sont désormais autorisés à communiquer via le réseau social TikTok. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, a annoncé élaborer un cadre réglementaire. Jusqu'à présent, la plateforme ne pouvait être utilisée que pour les enquêtes. De nombreux commissariats communiquent déjà via des plateformes comme Facebook ou Instagram. Désormais, ils pourront donc le faire via TikTok. Les commissariats ont de nombreux messages importants à diffuser auprès des jeunes, par exemple concernant l'alcool et la circulation, la consommation de drogue, la sécurité en ligne et la cybercriminalité et la prévention. C'est donc ce qu'a déclaré Bernard Quintin. Si nous voulons toucher les jeunes, nous devons aussi communiquer via les plateformes qu'ils utilisent, a déclaré Bernard Quintin. Bien entendu, cela doit se faire de manière responsable et sûre.
Ce week-end, la Belgique va commémorer la catastrophe du bois du Cazier.
Oui, ce sera demain les commémorations des 70 ans de la catastrophe du bois du Cazier ou catastrophe de Marcinelle, qui est la plus importante catastrophe minière survenue en Belgique au charbonnage du bois du Cazier à Marcinelle. Le 8 août 1956, elle causa la mort de 262 mineurs. Couvert par la presse internationale pendant de nombreuses semaines, ce drame fut à l'origine d'une prise de conscience de la condition des mineurs dans cette industrie et fut également à l'origine d'une joute entre l'Italie et la Belgique. De nombreux mineurs étaient italiens. D'ailleurs, Giorgia Meloni a annoncé ne pas participer à ces commémorations. Le site classé patrimoine mondial par l'UNESCO en 2012 comporte aujourd'hui un espace 8 août 1956, un mémorial qui rend hommage à ces 262 victimes.